Bonsoir. Résistance, dissidence et opposition en RDA, donc 1949-1990. Publié tout récemment sous la direction d'Hélène Camaran et de Sybille Gueper aux presses universitaires du Septentrion. Alors, tout d'abord, quelques mots peut-être sur les éditrices et les auteurs. Donc, Hélène Camaran, tu es professeure des universités depuis 2012 à l'Université Bordeaux-Montaigne et membre du prestigieux IUF depuis 2014. Ouais. Donc, auparavant, tu as été maîtresse de conférences toujours à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis 2004. Et tu es spécialiste donc, du Troisième Reich avec une thèse sur le journal intime sous cette période. Alors très récemment finalement, si on peut résumer l'itinéraire d'une chercheuse en histoire et en germanistique, tu as élargi tes recherches au domaine de la RDA. Avec bon, ce qu'on appelle à l'université une habilitation à diriger des recherches sur les tracts en RDA comme modalité de l'opposition. Peut-être tu nous en diras deux mots. Tu prépares actuellement un ouvrage avec notre collègue de Bordeaux-Montaigne, Elisabeth Guéhamont, sur la représentation de la RDA dans le cinéma allemand, donc ce qui constitue finalement une nouvelle étape dans tes recherches. Ouais. Je te laisse peut-être la parole.
Oui, voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous présenter ma collègue, donc Lynn Wienport, qui est maîtresse de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne et donc ma collègue, spécialiste de littérature et de traduction, qui a travaillé sur la littérature de RDA et notamment la littérature dite du tournant de 89-90 et qui n'est pas du tout étrangère à l'ouvrage puisqu'elle a signé deux traductions sur les huit qui sont dans l'ouvrage et qui donc a travaillé avec nous aussi pour la partie glossaire et qui donc est partie prenante dans cette aventure.
Merci. Alors, je suis très curieuse et puis très enthousiaste. J'aimerais d'abord vous présenter le livre, c'est-à-dire l'ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette photo de couverture. Moi, c'est ce qui m'a frappée lorsque j'ai eu la chance de recevoir le livre. Alors, il me semble, et c'est pour ça que je suis assez contente de pouvoir faire cette discussion ce soir, il me semble que le choix de cette photo est assez particulier, un petit peu en décalage avec les attentes ou les habitudes des spécialistes de la RDA. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer, nous dire d'où vient cette photo ? Bon, on sait un petit peu, les germanistes savent un petit peu ce qu'elle représente, mais peut-être ça serait intéressant d'expliquer au public ce qu'elle représente et surtout pourquoi vous vous êtes arrêté, pourquoi vous avez choisi cette photo en particulier.
D'accord. Donc c'est une photo en noir et blanc qui représente au premier plan un homme de dos qui a le poing levé, qui est en colère donc. Et à l'arrière-plan, on voit Berlin un petit peu abîmé après une journée de révolte et de combat de rue. Et tout au fond, on voit deux chars soviétiques. C'est donc une photo qui a été prise à Berlin le 17 juin 1953. Et en général, on a de cet événement inconnu des images beaucoup plus courantes qui reviennent systématiquement. C'est toujours les mêmes photos que l'on connaît. Et nous étions assez contentes d'avoir exhumé cette photo peu connue. Alors, pourquoi est-ce qu'elle nous paraissait intéressante et pourquoi est-ce que nous l'avons choisie ? Dans un premier temps, parce qu'on trouvait l'attitude de ce personnage anonyme intéressante. Ça souligne bien que l'acte de résistance est avant tout un acte individuel, une décision individuelle, et qu'elle implique une position par rapport à la cité, par rapport à la collectivité. Ensuite, nous trouvions intéressant de mettre une photo qui nous renvoie aux années 50, parce que en général, quand on s'intéresse à la RDA, surtout en France, on reste dans les années 80. Donc on a des idées sur les années 80, on travaille sur la littérature des années 80 ou sur la chute du mur de Berlin, mais on délaisse souvent les années 50. Et donc nous voulions mettre les années 50 en exergue. Et dans l'ouvrage aussi, on a des chapitres importants au début de la chronologie parce qu'on ne peut comprendre les années 70 et 80 en RDA que quand on comprend les années 50 pour la biographie des personnes. Et voilà. Donc là où par contre on a hésité, C'était justement de faire référence à un événement de protestation de masse, parce que finalement, il y a dans les 40 ans d'histoire de la RDA deux événements qui peuvent se rattacher à la protestation de masse. C'est justement cette rébellion, cette révolte populaire le 16 et 17 juin 1953, puis les manifestations de l'automne 89. Mais justement, ces deux événements sont un petit peu les événements qui cachent tous les autres. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a hésité, on a beaucoup discuté, puis finalement on est quand même revenu en disant bon mais voilà, on a quand même une belle position résistante et quand même les années 50 qui sont oubliées un petit peu aujourd'hui. Ça te va ?
Ça me va bien, je trouve que ça répond à une interrogation. Si tu n'as pas dit où vous avez trouvé la photo, si
alors c'est possible, oui, voilà, nous l'avons curiosité. Trouvée aux archives du gouvernement allemand. On n'a pas l'habitude de chercher dans ces archives-là, et donc ça a été un peu plus compliqué que pour des archives normales, mais on y est arrivé et on a payé pas mal aussi.
Oui, c'est ça, voilà. Bon, alors bon. On ne se refait pas. Moi, je m'intéresse pas mal à la narratologie, donc j'aborde toujours un livre par le paratexte, et donc en particulier le péritexte. Et là, on voit un titre en trois temps, résistance, dissidence et opposition. Et c'est vrai que je dois dire que pour le néophyte, on peut avoir tendance à penser que ces trois termes sont des synonymes. Et il serait peut-être bon que tu nous expliques pourquoi vous avez choisi ces trois termes. Est-ce qu'ils sont synonymes ou est-ce qu'ils renvoient à des notions tout à fait spécifiques dans l'histoire de l'opposition à la RDA ?
Ouais. Alors c'est un vrai parti pris, puis aussi le fruit d'un long cheminement et de nombreuses discussions avec des collègues français et des collègues allemands. Donc en général, quand on parle de résistance, que ce soit en France ou en Allemagne, on pense systématiquement à la Seconde Guerre mondiale, et donc en France à la résistance française ou en Allemagne à la résistance contre Hitler. Donc c'est un terme qui est un petit peu figé et que beaucoup de chercheurs se refusent à utiliser pour une autre période aussi, parce que finalement ce terme est sacralisé, probablement à tort, mais il est figé dans cette période-là. Souvent on va parler donc de résistance à Hitler et d'opposition en RDA. Et avec ce terme extrêmement vague d'opposition, on couvre donc 40 ans de phénomènes extrêmement divers et variés. Mais même pour l'opposition, les chercheurs se disputent parce que certains disent que l'opposition, c'est tout ce qui est contre. Voilà, une définition extrêmement large. Et d'autres, notamment les politologues, vont dire non, l'opposition, ça sous-entend... l'opposition sous-entend qu'il y a une légalité. Et donc la résistance serait clandestine et l'opposition serait légale, comme on parle par exemple d'une opposition parlementaire ou une opposition qui se manifesterait dans l'espace public, dans les journaux, etc. Donc certains chercheurs allemands, pour sortir de ce problème, depuis 15 ans à peu près, utilisent un binôme, c'est résistance et opposition en RDA, en renvoyant en fait tous les partisans des deux concepts finalement à quelque chose d'assez général. Donc au début, on était parti pour résistance et opposition en suivant les collègues allemands. Et puis à force de travailler, on s'est rendu compte que ces deux termes laissaient un pan en fait tout à fait spécifique de côté. C'est parce qu'aucun des deux termes ne les désignait, ne les définissait. C'est cette catégorie tout à fait particulière et qu'on ne trouve absolument pas sous le Troisième Reich, de personnalités qui sont à l'origine soutien du régime, partisans du régime, et qui, au terme d'un certain processus constitué d'étapes parfois différentes, vont s'éloigner, devenir critiques, et certains aller jusque dans l'opposition à ce régime et donc devenir des dissidents. Et on entend par le mot dissidence la cession avec un régime après une phase d'adhésion. Donc les dissidents ont d'abord soutenu le régime et puis, au terme d'un processus qui est parfois comparable et parfois différent, donc se sont parfois termine dans l'opposition. Et en général, en France, on ne connaît que les dissidents. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une focalisation sur les dissidents est-allemands. D'ailleurs, on parle aussi de dissidents soviétiques, etc. En ne s'intéressant qu'à ces figures donc marxistes à l'origine, hein, qui se sont détachées du marxisme tel qu'il a, enfin du socialisme tel qu'il a été mis en pratique en RDA, pour de temps en temps s'y opposer, devenir donc des opposants, parfois être mis à la porte de l'État, etc. Donc finalement, on a trouvé que ces trois termes étaient peut-être nombreux, mais qu'ils rendaient justice d'une plus grande diversité. Donc la résistance est entendue dans l'ouvrage au sens d'un acte individuel ou collectif qui vise à déstabiliser l'État, voire à le renverser. Donc il y a la volonté en général de faire disparaître la RDA. Et donc ça, c'est ce que l'on trouve, les manifestations les plus fréquentes que l'on trouve dans les années 40 et 50, donc 46, 49, jusque 53, 56. La révolte du 17 juin en fait partie. Donc c'est vraiment des actions de résistance. Il y a ensuite la phase de dissidence, où là, en fait, ce sont des soutiens du régime qui vont s'en distancer. Et ça commence à peu près en 1956. Et de 56 à 89-90, on a plusieurs générations qui ont des histoires différentes, hein, qui incarnent une forme de dissidence. Et on a l'opposition qui est donc plus générale et qui va de temps en temps, enfin qui nous renvoie plutôt dans les années 70 et 80, avec une opposition qui peut être de nature sociale, de nature politique, voire de nature culturelle. Et donc qui est un terme, je dirais, plus à nuancer avec un adjectif, en fait.
Donc est-ce que opposition, ça serait finalement un terme plus générique ?
Ben, c'est qui peut de temps en temps être vide de sens. Mais effectivement, là, on l'a entendu au sens de opposition, c'est-à-dire que l'opposition dans les années 80, on est dans une dictature en RDA, et dans les années 80, l'opposition, au lieu d'être de façon frontale, de se positionner de façon frontale vis-à-vis de l'État, ou de contourner, c'est-à-dire de mener une vie en parallèle, l'opposition politique qui se construit dans les années 80 va essayer de forcer l'État à devenir démocrate et à respecter les lois ou la constitution ou la loi électorale. Donc c'est vraiment, elle se vit, cette opposition, souvent comme une opposition pas légale, puisqu'elle est forcément clandestine, illégale, mais qui essaie d'utiliser des moyens légaux. Et donc, c'est comme ça que le régime craque doucement aussi. C'est en concédant, surtout à l'automne 89, de mois en mois, en concédant des espaces de liberté de plus en plus importants aux opposants, jusqu'à, par exemple, accepter une forme de pluralisme. Des associations se créent, ou un parti politique d'opposition se crée, il est interdit, jusqu'à ce que finalement, l'État est-allemand cède et accepte l'existence de ces associations qui sont les prémices du pluralisme. Et c'est avant la disparition de la RDA.
Ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est comme si tu nous expliquais dans l'ouvrage que finalement, des petites marges de liberté ont été graduellement, progressivement grignotées par l'opposition. C'est comme ça que ça s'est passé ?
Alors l'État, ou le pouvoir, hein, donc le parti unique du SED, etc., a lui-même joué une stratégie de maintien de la cocotte minute, en quelque sorte, en tolérant des espaces marginaux de liberté. Donc, mais tout à fait marginaux et qu'ils pensaient avoir sous contrôle et qu'ils jugeaient inoffensifs. Donc, par exemple, on tolérait une certaine marginalité dans les arts plastiques, ou on a toléré des revues de littérature qui n'étaient pas du tout dans la ligne. Mais on a globalement toléré des petites niches. Hein. C'est pour ça qu'on associe souvent la RDA on la présente souvent comme une société dite de niche. L'État, quand il a compris assez tôt qu'il n'arriverait pas à susciter l'adhésion de la majorité de la population, a essayé d'acheter une sorte de paix à l'intérieur de la RDA par diverses façons, beaucoup de chantage, beaucoup de pression, etc., mais aussi en concédant certains espaces de liberté. Et certains ont utilisé ces espaces de liberté et puis ont poussé un petit peu les murs jusqu'à gagner de plus en plus d'espaces de liberté en allant jusqu'à la confrontation.
Alors, est-ce que quand tu parles d'espace de liberté concédé, est-ce que tu penses en particulier aux églises ou tu fais allusion à d'autres lieux ?
Alors, Les églises, c'est l'exemple emblématique, hein, et depuis une vingtaine d'années, souvent, on parle surtout des églises. Et c'est vrai, quand on connaît quelque chose, on pense aux églises. Alors oui, les églises, mais il faut se méfier, parce qu'en fait, dans leur immense majorité, les dignitaires de l'église protestante, hein, puisqu'on est la religion majoritaire en Allemagne de l'Est était la religion protestante, en fait, étaient devenus, hein, parce qu'en 40 ans, les choses ont beaucoup évolué, mais là, si on parle de marge de manœuvre, on est dans les années, fin des années 70 et les années 80. Donc, à cette période-là, l'Église est arrivée à une sorte d'accord tacite avec le pouvoir. Chacun a sa zone d'influence et on ne se marche pas trop sur les pieds. Et donc, en fait, l'Église a... Quand certains pasteurs ont utilisé leur paroisse pour soutenir l'opposition politique, souvent ils ont été réprimés par la hiérarchie de l'Église. Et donc ils ont été mutés, ils ont subi eux-mêmes des pressions. Certains ont été envoyés en prison, certains se sont suicidés en prison. Donc en fait, globalement, l'Église en tant qu'institution a été plutôt, dans les années 80, en majorité en tout cas, outil du pouvoir. Mais à l'échelle individuelle, certains pasteurs ont su eux-mêmes contourner et utiliser l'espace que représentait l'Église, qui était un espace où, alors évidemment, l'astasie y entrait, mais où officiellement, on n'allait pas rentrer, où l'État n'était pas trop présent. Et donc, certains ont utilisé, par exemple, comme il n'y avait pas d'espace public, on ne pouvait pas faire un concert librement, on ne pouvait pas faire une rencontre, comme aujourd'hui, pour parler d'un livre, pour regarder une exposition, etc. Tout ça, ça n'était pas possible. Donc, ça se faisait dans les espaces privés, dans les appartements privés, ou ça se faisait dans les paroisses, dans les lieux, dans les églises, en fait. Et donc, il y a eu, par exemple, on connaît les images, des concerts de rock dans les années 80, les églises, des concerts de punk. Donc, on voit des jeunes punk avec des coiffures incroyables et puis devant un hôtel. Donc, on a ces images un petit peu décalées de cette époque-là. Donc, c'est vrai, mais c'était le fait de très peu d'églises et de très peu de pasteurs. Donc les marges de manœuvre dont tu parlais, on pouvait les trouver aussi, en fait on pouvait les trouver dans toutes les institutions qui existaient, on en trouvait même au sein même du SED, donc c'est-à-dire le parti unique. On a une image souvent monolithique de ce parti, mais ce n'est pas vrai. Tout au long de son histoire, il y a eu aussi des membres du SED qui ont contesté à un moment telle ou telle décision, ou qui ont protesté à l'intérieur du parti, et en fonction des époques, le parti a plus ou moins réprimé ces personnes-là. Mais il est par exemple très intéressant de se pencher sur les exclusions du parti. C'est-à-dire tous les gens qui ont été exclus du SED, c'est qu'à un moment, ils n'ont pas voulu suivre la ligne. Alors ça ne fait pas d'eux des résistants, ça ne fait pas forcément d'eux des opposants non plus, mais ça fait quand même la trace d'un comportement récalcitrant ou d'un refus ou d'une protestation même minuscule pour telle ou telle loi. Et on retrouve dans les acteurs de la révolution de 89, on trouve pas mal d'anciens membres du SED, des gens qui ont rendu leur carte ou qui se sont fait exclure du SED à un moment de leur histoire, certains en septembre 89, et qui sont, entre guillemets, sur les barricades un mois après, quoi. Donc, c'est pas... on peut pas... Enfin, il faut pas... Il faut faire attention aux dichotomies, les marges de manœuvre pouvaient être partout.
Mais du coup, est-ce que tu serais d'avis, comme Anne Hahn, que nous avons donc rencontrée très récemment, qui est donc une ancienne punk de RDA, que finalement cette dichotomie entre d'un côté, cette projection peut-être a posteriori de se dire, comme c'est finalement fortement médiatisé dans le cinéma notamment ou dans la littérature, il y a d'un côté les résistants, les héros, et de l'autre... il y aurait les complices. Enfin, on pense tous à des films très célèbres en particulier. Comment vois-tu, toi, cette séparation, cette répartition des rôles?
Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a des criminels, il y a des coupables, c'est évident. Il y a des personnes qui ont eu des comportements plus ou moins exemplaires, ou plus ou moins courageux, ou plus ou moins en accord avec une certaine image de l'homme, ou une certaine image de la dignité humaine, etc. Donc ça, ce seraient les deux pôles. Et à l'intérieur de ce pôle, une même personne peut osciller au cours de sa vie ou en fonction des situations. C'est-à-dire qu'en fait, dans une dictature, et là, je ne peux pas m'empêcher, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans sur le nazisme, et puis maintenant pendant de nombreuses années sur la RDR, donc malgré moi, je fais des résonances ou des échos entre les deux dictatures. Et ce que j'en retire au terme de ces années de travail, c'est qu'en fait, sous une dictature, rien n'est jamais entièrement blanc. Alors tout peut être tout noir, mais c'est rare aussi. Donc en fait, on ne peut pas avoir un comportement libre de tout, en dehors de tout soupçon dans une dictature. C'est en fait la dictature elle-même a cela de pervers qu'elle implique à un moment le compromis avec la dictature. C'est en fait si vous voulez travailler, si vous voulez, vous êtes forcément dans un système. Donc si vous ne pouvez pas vous exclure systématiquement du système, ou sinon, eh bien, alors en RDA c'est plus compliqué, mais vous ne travaillez pas, et puis vous mettez en danger toute votre famille, etc. Donc on peut pas juger en fait les comportements dans une dictature avec nos valeurs ou notre regard de démocrate, c'est impossible en fait. Il faut vraiment voir comment se positionne la contrainte et voir comment dans une contrainte donnée, et elle n'est pas la même sur le lieu de travail, à la maison, dans l'espace public, enfin elle est différente partout cette contrainte. Donc dans cette contrainte, comment l'individu se positionne Donc c'est très très difficile, et donc la dichotomie on préférerait que le monde soit clairement distinct entre les gentils et les méchants, mais c'est effectivement pas possible.
C'est un peu plus vendeur au cinéma, en fait.
C'est plus vendeur. Au cinéma, les types de héros, ça se vend beaucoup mieux que les personnalités un petit peu ambiguës ou qui suivent des parcours parfois un petit peu sinueux. Et souvent, dans les biographies de... Mais c'est ce qu'on voit, on va en parler, c'est ce qu'on voit dans les entretiens, quand on interviewe des gens qui ont vécu, en fait. Et c'est là où, justement, l'historien, il peut bosser, etc., il travaille avec des archives, mais on a la chance, sur cette période, d'avoir des tas de témoins, et des témoins de différentes époques. Et quand on leur parle, en fait, eux-mêmes, avec 25 ans de recul, ont un regard parfois très critique sur leur comportement, en disant, oui, à cette époque-là, j'avais commencé je pense à Roland Diane, j'avais déjà écrit une lettre de protestation, mais dans le fond, j'étais encore dans le système. Et donc, en fait, alors que nous, historiens, en voyant cette lettre très courageuse, on pourrait se dire, ça y est, il avait compris. Il dit non, j'avais pas du tout compris à l'époque. J'étais encore complètement engluée dans la loyauté vis-à-vis de cet État qui prétendait être antifasciste, qui prétendait être anticapitaliste, et puis incarner un idéal de l'homme, etc. Et puis, ce que je pense, ce que j'avais lu sur ce que c'est que l'être humain dans des auteurs du 18e, etc. Donc j'étais complètement engluée dans toutes ces contradictions. Et donc il écrit une lettre magnifique, mais lui-même dit non, à cette époque-là, j'avais pas la maturité politique qui m'a conduit quelques années plus tard en prison, et etc. etc. Donc c'est encore plus subtil, même que des fois les sources ne prétendent nous le dire.
Merci. Alors... si on repart sur ce titre, qui était donc ma question initiale, moi je m'interroge sur l'ordre toujours, je me dis pourquoi tel mot avant tel autre ou après. Est-ce que quand on voit cette longue période 49-90, tu l'as dit en introduction, est-ce qu'il y a des périodes qui finalement ont favorisé telle ou telle modalité d'opposition et finalement pourquoi ?
Alors c'est là où on voit que tout est imbriqué entre contexte international, contexte national allemand. Je vous rappelle que l'Allemagne était divisée, il y avait deux Allemagnes, donc il y a ce contexte inter-allemand. Et ensuite le contexte de la RDA spécifique et donc la politique intérieure de RDA. Et tout est imbriqué. Donc effectivement, la résistance chronologiquement, c'est plutôt les années du stalinisme, c'est-à-dire juste après avant même la constitution de la RDA en 49. Donc la RDA est créée en 49, mais en fait la résistance commence en 46, c'est-à-dire quand le rideau de fer tombe sur l'Europe et que les camps se cristallisent entre Est et Ouest, et qu'à l'Est, donc l'Union soviétique décide donc de conserver cette zone-là. Elle renonce à en avoir d'autres finalement, mais elle va consolider son emprise sur la zone qu'elle occupe, et où en fait elle va mettre en place une dictature. Alors qu'en 1945, pendant l'espace d'une année à peu près, on aurait pu, même dans la zone d'occupation soviétique, il y aurait pu avoir un semblant de vie démocratique. Parce que par exemple, on refonde les partis politiques et pendant quelques mois, ils se refondent librement. Ensuite, on les met au pas. Mais on ne les met pas au pas tout de suite. Dans les universités, on invente un outil qu'on va vite supprimer en 1948, mais on invente les parlements, enfin les conseils étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants sont élus, comme aujourd'hui la représentation étudiante, les étudiants sont élus par leur pair, et puis ensuite ils siègent dans un conseil étudiant, et ce conseil étudiant a voix au chapitre dans la gestion de l'université. C'est la démocratie, c'est le plus rare. Voilà. Et ils font même ça dans les lycées. Donc c'est un outil incroyable. Donc pendant quelques mois, on peut imaginer ou croire qu'une... Et les jeunes qui vivent ça, ils croient évidemment. Et donc quand le rideau de fer tombe, on met en place une dictature, donc on va par exemple supprimer ces conseils-là, on va obliger les partis à travailler ensemble, le pluralisme devient un pluralisme de façade, hein, c'est pas un vrai pluralisme, puisque tous les partis sont au service d'un seul et même parti, ce sont des marionnettes finalement. Le système électoral est un système électoral... dictatorial, c'est-à-dire en fait vous votez pour une liste unique, hein, une seule liste est présentée aux élections, donc vous votez oui ou non pour cette liste, mais évidemment si vous votez non, on va noter votre nom, on vous retrouvera, etc. Donc bon, je vous passe sur tous les procédés dictatoriaux, mais donc une dictature se met en place, et donc très clairement, en fait, très rapidement, une résistance se met en place à cette dictature. Et donc on va avoir des tracts, on va avoir des tentatives de sabotage, on va avoir des manifestations aussi violentes, etc. Cette période de résistance dure à peu près toute la période stalinienne, où donc il y a vraiment une main de fer. Hein. Donc Staline décède en 1953. Quelques mois après a lieu la révolte du 17 juin 1953. Et bon, qui est matée de façon très virulente, c'est le premier soulèvement dans le bloc de l'Est. Il y en aura des tas d'autres, mais c'est le premier.
Peut-être tu peux préciser pour le public, juste en deux mots, en quoi consiste le soulèvement, parce que tout le monde n'est pas germaniste.
Ah ouais, alors en fait, ça commence la veille, le 16, hein, par... Alors c'est compliqué, c'est assez compliqué. Il y a tout un contexte, en fait. Le niveau de vie est catastrophique en Allemagne de l'Est. Donc, à cette époque, les Allemands de l'Est ont encore des cartes de rationnement alimentaire, comme en temps de guerre. On est en 1953. Bon, donc en 1953, on a les cartes de rationnement, on a un niveau de vie catastrophique et toute l'industrie allemande est une industrie dictée par l'Union soviétique, une production pour l'industrie lourde et tout part vers l'Union soviétique. Donc en fait, l'Allemagne de l'Est ne nourrit pas, n'habille pas et ne meuble pas correctement sa population. Donc il y a un fort mécontentement populaire général. Et là-dessus, dans les entreprises, on décide d'augmenter les normes, c'est-à-dire on va dire voilà, une journée ou une heure de travail dans les usines, c'est pas la production de X boulons, mais X plus 10. Hein. On augmente ces normes-là et on dit voilà, la norme qui fait que vous avez bien ou mal travaillé, c'est non plus 50 boulons en tant de temps, mais 60. Mais le salaire reste le même, alors que tout le monde travaille mal. Et donc, ce sont les ouvriers qui sont censés être les privilégiés, enfin, l'État a prétendu travailler pour les ouvriers. Et donc, c'est les ouvriers qui vont les premiers se révolter pour se révolter contre des conditions, finalement, de travail. Et le plus emblématique, c'est qu'on est donc dans la phase de reconstruction de l'Allemagne et de Berlin. Et il y a une avenue à Berlin-Est, qui n'a pas changé aujourd'hui, qui doit devenir et va devenir symbolique de la puissance de l'État. Et c'est à l'époque la Stalinallee, hein, l'allée Staline, aujourd'hui Karl Marx Strasse, donc qui part de l'Alexanderplatz, c'est une allée monumentale. Et donc on est en train justement de construire cette allée qui doit incarner le pouvoir indestructible des soviétiques et du communisme, etc. Et ce sont les ouvriers du bâtiment de cette allée qui sont les premiers à débrayer, à faire des manifs sur cette allée. Donc quasiment toutes les entreprises d'Allemagne et usines d'Allemagne de l'Est se mettent en grève. On est le 16. Et pour diverses raisons, l'information circule par le biais de la radio de l'Ouest, mais que l'on capte à l'Est. L'information sur ces débrayages va se répandre dans toute l'Allemagne de l'Est. Et donc, le 17 au matin, tous les ouvriers débraient à nouveau. Et cette fois-ci, toute la population s'y met aussi. Et on a donc, on passe d'une grève de travailleurs à une révolte populaire le lendemain, avec donc, comme on le voit sur les images, hein, des hommes et des femmes de tout âge qui font des manifestations. Et très rapidement, dans le courant de la journée, les arguments sociaux, c'est-à-dire non, on veut mieux manger, etc., ces arguments ne disparaissent pas, mais sont dépassés par des arguments politiques avec des pancartes qui exigent élections libres. On veut les partis politiques, on veut des partis politiques d'opposition, des vrais partis politiques d'opposition, et libérer les prisonniers politiques. Et dans certaines villes de RDA, ces cortèges vont aller jusque dans les prisons, prendre d'assaut les prisons et libérer les prisonniers politiques. Donc ça, c'est vraiment pas du tout une... Voilà, c'est d'un contexte social, on part sur une rébellion populaire. Et donc on est... Donc c'est ce jour-là. Hein. Et donc, comme évidemment on est... la puissance d'occupation, officiellement, la RDA n'est pas occupée, mais dans la pratique, en fait, les tanks soviétiques sont encore dans les casernes partout. Hein, il n'y a pas encore d'armée est-allemande, donc c'est l'armée soviétique qui, théoriquement, assure la paix en RDA. Et donc, les tanks sortent juste des casernes, convergent vers Berlin et vers les grandes villes, et matent cette rébellion dans le sang, avec beaucoup de violence, et le soir même, tout est terminé. Donc voilà la révolte du 17 juin 1953.
Alors du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est une césure ? Enfin,
Alors, je ne sais pas si c'est une césure. Disons que pour une certaine génération, c'est une césure. Pour ceux qui, pour les gens qui ont 20-30 ans et qui ont vu la violence de la répression, ces gens-là ne vont plus jamais faire... je dis une bêtise. En fait, si, c'est une césure dans la mesure où déjà il y avait énormément d'émigration, c'est-à-dire que le mur n'existait pas encore. Et donc, les Allemands de l'Est massivement quittaient la RDA en raison des conditions de vie et en raison du système politique, pour aller s'installer à l'Ouest. Et évidemment, cet événement va encore plus pousser les gens vers le départ. Cet événement mate la population des années 50, et plus jamais la population de RDA n'ira dans la rue, alors qu'ensuite, toute l'histoire du bloc de l'Est est marquée par des révoltes, dont 56, la Pologne et Budapest, 68, Prague, 81, la Pologne, de nouveau. Donc, en Allemagne de l'Est, on ne bougera pas jusqu'en septembre-octobre 89. Donc, ça a marqué une génération très peu de temps après, enfin oui, on peut dire peut-être c'est la fin de la résistance au sens d'action visant à renverser le régime. C'est-à-dire que d'autres vont continuer à vouloir le renverser. Et on a dans le bouquin l'exemple d'un groupe qui, justement, un groupe de jeunes qui se constitue en 53 en ayant vu ce qui s'est passé. Ce sont des lycéens. Ils se mettent en groupe en 53, justement, en voyant ça. Ils vont être actifs jusqu'en 58. Donc, eux, ils sont éminemment résistants. Ils veulent renverser le régime et ils vont distribuer des tracts, etc., etc. Mais probablement qu'ils ne sont plus très nombreux à avoir cet espoir-là ou à avoir à agir de cette façon-là, quoi.
Si on passe aux autres modalités de contestation, qu'est-ce que ça change, l'affaire Birman, pour les modalités de contestation ?
Alors, l'affaire Birman, souvent en France, on la connaît. C'est une autre. Alors ça, c'est une césure multiple. C'est en 1976. Donc, entre-temps, rapidement, là, on était en 53. Et jusqu'en 76, il se passe quoi ? Il se passe 61, construction du mur. L'Allemagne de l'Est s'enferme. Officiellement, c'est pour... toute une vague d'historiens ont dit que c'était souvent pour des raisons économiques, hein, c'était pour empêcher les gens de fuir, hein, puisque c'était une main-d'œuvre importante qui partait. Mais entre-temps, on s'est rendu compte que c'était surtout pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait trop d'influence, trop de passages, hein, et donc la dictature ne fonctionnait pas parce que la population était trop ouverte à toutes ces tendances. Donc en 61, on enferme la population est-allemande, et finalement, c'est l'aveu d'échecs du gouvernement, des pontes du SED qui comprennent définitivement en 61 que jamais ils ne susciteront une adhésion globale, générale, massive de la population derrière eux. Et donc c'est quelque part en disant, bon, mais puisqu'on n'arrivera pas à les convaincre, on va le faire un petit peu par la force, hein, en quelque sorte. Donc en 61, en fait, le contexte international a changé, les choses pourraient se passer différemment, mais on enferme la population est-allemande. Et il se passe une décennie, les années 60, où en RDA, alors déjà jusqu'en 61, et c'est ça aussi qui fait qu'on a des résistants jusqu'en 61, c'est que jusqu'en 61, on espérait pouvoir faire disparaître la RDA. Et avec la construction du mur, l'État se renforce en tant qu'État, n'a pas encore de reconnaissance internationale, mais gagne en confiance en soi, d'un point de vue aussi économique, etc. Donc fin des cartes de rationnement. Et la résistance, ou les résistants, ou les opposants se disent, bon, mais voilà, maintenant, il faut faire avec, il va falloir faire avec. Donc on a une décennie un petit peu creuse, hein, les années 60. Ça bouge au niveau culturel, mais enfin, il n'y a pas de... Voilà. 68, Prague, ça, c'est un grand moment pour la formation politique de la future génération, où là, eux, ils n'ont pas vécu 53, et c'est la nouvelle génération, ceux qui sont nés après 45, qui ont 20 ans en 68, assistent à ce qui se passe à Prague, soutiennent le mouvement de Prague. Je vous rappelle que Prague, c'est essentiel dans l'histoire du Bloc de l'Est, parce que c'est pour la première fois, en fait... Le vent de réforme vient du Parti communiste lui-même. C'est-à-dire, c'est la direction du Parti communiste qui veut réformer le communisme en disant, voilà, on va faire un communisme, un socialisme à visage humain. Et que ça vienne de la direction du parti, ça suscite un espoir dans tout le Bloc de l'Est. Parce que tout le monde se dit, bah, ça y est, enfin, on a passé la période de construction difficile et maintenant, on va pouvoir avoir des libertés. Donc, évidemment, c'est à la fois un très grand espoir et une grande déception, puisque de nouveau, les chars soviétiques vont mater le printemps de Prague au mois d'août. Alors là, c'est la désillusion de toute une génération, ceux qui auront 40 ans à la chute du mur de Berlin. Donc c'est eux qui avaient 20 ans, qui auront 40 ans 20 ans après. Donc, événement important. Ensuite, on a les années 70, 71, 72. Là, c'est important d'un point de vue international parce que la RDA obtient ce qu'elle cherchait à avoir depuis longtemps. C'est la reconnaissance internationale en tant qu'État. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait une concurrence entre les deux Allemagnes. La RDA n'était pas reconnue comme un État légitime par la grande majorité des États dans le monde. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle a droit de citer, on l'invite, elle siège à l'ONU. Elle a une visibilité qui va obliger le système à ne plus utiliser une violence brute envers l'opposition. Et donc, on ne va plus juger des gens, on ne va plus les condamner, pardon, à 25 ans de prison ou à 25 ans ou à 10 ou 15 ans pour un tract, parce qu'évidemment, c'est contraire aux droits de l'homme et la RDA a signé la déclaration des droits de l'homme de l'ONU, par exemple, donc elle est en contradiction avec ces textes. Et donc, sa répression va changer. La Stasi, telle que vous, on la connaît, hein, telle que vous la connaissez, la Stasi se met en place à cette époque-là. Donc à partir de 72, elle s'étend, elle devient donc l'instrument du pouvoir. Et on rentre donc dans la dernière phase d'histoire de la RDA, donc 72 jusqu'en 89. Et dans cette période-là, et j'en viens enfin, je te réponds maintenant, donc dans cette phase-là, la césure c'est 76, puisque 76 en fait, c'est l'événement connu, c'est donc ce Wolf Biermann, qui est un marxiste, qui est un chansonnier, hein, qui... compose des chansons, et qui est un des rares, lui, en 1953, à ne pas avoir fui la RDA pour la RFA, mais à être passé de RFA vers la RDA. Donc il est étudiant à Hambourg, marxiste convaincu, et lui il dit « ben moi je veux construire le socialisme, etc. » Donc il part en RDA, il est marxiste, il y croit, il adhère au SED, etc. etc. Bon, très vite il a des problèmes. Parce que justement, il a un marxisme, il a une vision assez individuelle, individualiste du marxisme. Et puis évidemment, pour lui, ça doit être un socialisme à visage humain. Donc il y a autour de lui, enfin il est le symbole, hein, d'un tout un foyer de dissidence. Donc c'est là, c'est vraiment l'exemple de la dissidence. Et il va être jugé systématiquement trop impertinent par l'État. Donc dans un premier temps, alors il a commencé, avant d'être chansonnier, il a commencé par monter une troupe de théâtre. Donc on lui dit non, mais alors vos spectacles là, stop, c'est fini. Ensuite, on lui dit bon, maintenant, interdiction de vous produire sur scène. pour un chanteur, c'est évidemment problématique de ne plus pouvoir se produire sur scène. Et évidemment, on ne diffuse plus ces chansons, ni sous format audio, ni sous format papier. Alors, qu'est-ce que fait Biermann ? Marge de manœuvre. Il est dans son petit appartement à Mitten, fenêtre ouverte avec le tramway qui passe, et avec sa guitare, il chante pour ses amis, et avec les cassettes audio que certains d'entre vous, enfin que certains ont connues dans les années 70 et 80, il enregistre de façon très artisanale ses chansons, et ensuite ces cassettes sont transportées, sont passées clandestinement à la frontière à l'ouest. Avec ces supports audio de très mauvaise qualité, on en fait des disques qui sont édités à l'ouest. Et de même, ces textes sont édités par des maisons d'édition à l'ouest. Et ensuite, certains font revenir ces produits, toujours clandestinement, en les passant à la frontière. Et donc, ils reviennent en RDA après avoir été édités en RFA. Donc, évidemment, ça ne plaît absolument pas. Enfin, il n'est pas le seul à le faire. Hein. C'est toute une génération d'intellectuels et d'artistes et d'auteurs et de chanteurs qui font ça. C'est très, très courant. Et donc, c'est là où, en fait, le système prend l'eau, en fait, hein, parce qu'on a voulu enfermer cette population. Mais en fait, je vous rappelle qu'à partir des années 70, quasiment tous les foyers est-allemands ont une télévision, donc plus tard que les foyers ouest-allemands, et qu'avec la télévision est-allemande, on capte les chaînes de l'ouest. Donc, si vous voulez, tous les soirs, vous avez l'ouest qui arrive à la maison. Donc, bon, il y a ça, mais il y a aussi donc, toute l'arrivée de la culture, en quelque sorte, par ces biais détournés. Et donc pour terminer l'histoire Biermann est donc complètement coincé dans des tas d'interdictions. Et bizarrement, on l'autorise un jour à aller se produire à Cologne, donc à l'ouest. Mais c'est une mise en scène, hein, c'est prévu par la RDA. Donc il va se produire à Cologne. Il fait un concert à Cologne qui est retransmis à la télévision, donc toute l'Allemagne peut entendre ce concert. Dans ce concert, il se montre tout aussi impertinent que d'habitude, mais en étant aussi impertinent, je dirais, envers le capitalisme qu'envers le socialisme qu'il trouve pas à la hauteur. Et donc, le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, il est déchu de sa citoyenneté est-allemande par l'État. Et donc, il ne peut pas rentrer. Et donc, c'est le début d'une nouvelle forme, en fait, de punition. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi faire des dissidents ou des opposants, on les expulse à l'Ouest ou bien on les vend. On les vend, donc l'Allemagne de l'Ouest a dépensé des milliards de Deutschmark pour acheter des prisonniers politiques. Et comme l'Allemagne de l'Est était dans une faillite financière permanente, elle renflouait ses caisses en vendant les prisonniers politiques. Donc l'exemple emblématique, c'est Biermann, déchu de sa nationalité est-allemande, et qui dit « mais je suis marxiste, je suis plus marxiste que vous, le vrai marxiste, c'est moi ». Voilà.
Merci pour cette réponse. Alors, je reviens à la composition de l'ouvrage et je voudrais évoquer les entretiens. Parce qu'en fait, cet ouvrage a ceci de particulier, qu'il ne comporte pas uniquement des articles de chercheurs et de spécialistes d'universitaires sur les notions présentées, mais également trois entretiens de témoins qui, lorsqu'on a lu l'ouvrage, donne véritablement une âme cet ouvrage. Donc j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots, en particulier sur le choix des témoins. Je pense en particulier à Thomas Hammer. Mmh. Donc pour ceux qui avaient assisté au colloque il y a quelques années, c'était tout à fait unique et très spécial d'entendre son témoignage, que l'on peut désormais lire, car il a été retranscrit et également traduit. Mais il y a aussi d'autres témoins. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le choix des témoins ?
Alors, on a une chance inouïe, parce qu'on a réussi à avoir des témoins de premier plan, donc, et pour des périodes différentes et avec des positionnements différents. Donc, pour les années 50, on a Thomas Hammer, qui est un monsieur né en 36, je crois. 1936, et qui est un de ces membres du cercle de Heisenberg dont je vous parlais. Thomas Hammer est donc lycéen en 53 et il va constituer ce groupe avec des amis, un groupe de résistance. Il va distribuer des tracts, faire des graffitis. Enfin bon, c'est une histoire rocambolesque et c'est en fait le groupe de cette époque-là qui a échappé le plus longtemps à la répression. Donc une durée de vie de 1953 à 58 pour un groupe de résistants à l'époque, c'est du jamais vu. Bon, ils ont été extrêmement malins et ils se sont bien cachés et ils ont été dénoncés parce qu'il y a quelqu'un qui les a infiltrés. Enfin, ils ont été ça aurait pu continuer, hein. Ils ont été très 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 bons. Et Thomas Amar a été condamné ensuite à 25 ans de prison. Il a fait de nombreuses années en prison et il a été un des premiers que la RFA a racheté donc pour le libérer. Et il a ensuite continué sa vie en RFA. Et donc c'est un monsieur incroyable, d'une finesse, d'une intelligence, etc. Et qui arrive à raconter à la fois son histoire, mais à la mettre en résonance par rapport à l'époque et à nous faire vraiment comprendre comment les choses se sont passées. Et c'est vrai, quand on avait fait cette rencontre avec Thomas Amorge, on était dans une salle de 100 places avec beaucoup d'étudiants assis par terre. On devait être 150 dans cette salle et régnait un silence très ému et c'était une rencontre magnifique. Donc on a retranscrit, on avait enregistré cet entretien, on l'a retranscrit, on l'a retravaillé parce qu'il comprend le français, donc il a pu corriger et affiner des choses, etc. Et donc c'est l'entretien qui nous ramène dans les années 50. Ensuite, on a un entretien, alors là on est très contente d'avoir pu interviewer Roland Tian, qui est l'actuel directeur des archives de la Stasi, donc qui est un personnage de premier plan, voilà. Et que nous avons eu la chance, Sybille et moi, de connaître avant, quand il n'était pas encore directeur des archives de la Stasi et qu'il était juste journaliste. Et donc, les choses ont fait que Roland a accepté de nous accorder l'entretien pour ce bouquin. Et il ne parle absolument pas de son travail à la direction des archives de la Stasi aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à la fin de l'ouvrage. Lui, il nous parle de son parcours de résistant dans les années, fin des années 70 et début des années 80. Donc lui, il a 20 ans en 80. Il est tout à fait marqué par l'époque birmane et c'est justement quelqu'un qui... Donc il est dans une petite ville à Iéna et il va raconter comment, en mêlant à la fois l'enthousiasme de la jeunesse, le côté un petit peu aussi inconscient, enfin pas conscient de ses actes de ses 17, 18, 19 ans, il va petit à petit mûrir politiquement et passer à l'action politique. Et son parcours est très intéressant parce que très rapidement, il est expulsé de force vers la RFA, donc en 83. Donc c'est très tôt hein, dans son parcours à lui. Et en fait, pendant jusqu'en 89, ça fait 6 ans, les 6 ans qui nous amènent jusqu'en 89, il reste à Berlin-Ouest et il va mettre toute son activité au service du soutien de l'opposition, mais à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va par exemple donner aux... Alors les journalistes de l'Ouest, enfin les journalistes de l'Ouest, les diplomates ont le droit d'aller en Allemagne de l'Est. Mais évidemment, lui, non. Et il y a la fameuse valise diplomatique. Et donc dans la valise diplomatique, il cache des caméras, des appareils photos, des imprimantes, des ordinateurs et des films pour les caméras et pour les appareils photos. Et en fait, il donne donc il soutient logistiquement la résistance. Et par la même valise diplomatique reviennent des photos, des enregistrements, etc. Et peut-être que vous connaissez ces images prises d'en haut d'un pont d'une manifestation à Leipzig sur le boulevard de Leipzig. Des photos nocturnes où on voit une masse colossale de gens dans une manifestation. C'est l'hiver, il fait nuit, etc. Ce sont des photos prises grâce à l'appareil photo de Roland Tian et dont la pellicule est repartie par des bois, enfin parce que la Stasi était partout, hein, mais il fallait ramener la pellicule à Berlin pour qu'elle repasse par la valise diplomatique à l'ouest. Et ces documents, alors entre-temps, lui, donc c'était un personnage assez, assez brillant. Il était devenu rédacteur en chef d'une émission politique type envoyé spécial. Et donc, régulièrement, il mettait au programme de cette émission, hein, le envoyé spécial allemand, des émissions sur la RDA. Et donc, en fait, et ça servait à informer à la fois la population de l'Ouest, mais surtout la population de l'Est, qui recevait aussi ces émissions. Donc, en fait, il faisait tourner des images à l'Est, et ensuite, il les diffusait par la télé, et ça revenait à l'Est. Et donc, ça a aussi donné confiance à l'opposition de voir que ah ben zut, il se passe ça à Leipzig, il se passe ça à Dresde, à Rostock, etc. Et donc ça a informé la population est-allemande sur ce qui se passait clandestinement ou de façon invisible, en fait, dans l'État. Donc, Roland Tian raconte toutes ces actions-là qui vont... Bon, enfin, il y a plein d'histoires incroyables et qui le conduisent, donc ce parcours de super résistant, je dirais, le conduisent à la direction des archives de la Stasi. Et alors, donc, pour parler aussi des deux autres... Alors, on a ensuite deux autres témoins, Frank Ebert et Peter Grimm, qui sont pas, enfin qui ont quelques années d'écart, mais qui tous les deux sont tout à fait représentants, enfin sont des leaders, des membres importants des groupes d'opposition politique de la fin des années 80. Alors Grimm, lui, il a commencé au début des années 80, mais tous les deux, c'est plutôt dans 85-89. Donc dans cette période de constitution de groupes. Alors on appelait ça le mouvement civique ou les militants pour les droits civiques, etc. Donc, ou les groupes de base, les basisgruppen. Donc ces groupes-là sont des petits groupes de personnes qui se réunissent autour de valeurs qu'ils estiment bafouées par la RDA, donc par exemple l'écologie, la paix, les droits de l'homme, etc. Et ces petits groupes vont éditer ce qu'on peut appeler de la presse clandestine, donc des samizdat, ça s'appelle, de la presse clandestine, vont organiser des réunions dans les paroisses, par exemple, vont faire, alors bon, pas eux, c'est pas eux qui faisaient les concerts de rock, mais ils vont faire des expositions. Et l'un des deux, Frank Ebert, lui travaillait dans un groupe qui essayait de centraliser tous les bouquins interdits en RDA pour les mettre en libre accès dans une bibliothèque, donc interdite, hein, mais qui existait quand même. Et donc, des gens venaient... Ça s'appelait Umweltbibliothek, c'était un mot de... C'était du camouflage, hein, bibliothèque pour l'environnement, mais en fait, c'était très lointainement lié avec l'environnement. Et il y avait tous les ouvrages subversifs qui n'étaient pas disponibles. Et donc, les gens venaient emprunter ces livres. Alors, un livre là-bas, c'était le paradis du bibliothécaire, hein, parce que les livres s'étaient lus, mais par un nombre incroyable de gens. Enfin, c'était un exemplaire, était lu et relu et relu et relu. Et de même, dans cette bibliothèque, on déposait aussi toute la presse clandestine. Donc voilà, donc d'avoir ces témoignages sur comment est-ce qu'ils ont agi, pourquoi, ils expliquent aussi comment le milieu familial les a ou non prédisposés à agir. Et on voit que finalement, parfois le milieu familial n'est pas du tout décisif, hein, pour le passage à l'action. Voilà, c'est des parcours. Et tous les deux, là, Grimm et Ebert, sont des acteurs de premier plan de la chute du mur en 89, quoi. Et aujourd'hui, ils sont pour l'un journaliste et pour l'autre archiviste.
J'aurais juste souligné une des spécificités de cet ouvrage, c'est ce dialogue finalement franco-allemand dans les contributions, puisqu'on y trouve, donc on l'a dit, des entretiens de témoins, mais également des contributions de chercheurs allemands, donc traduites, comme tu l'as souligné. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dialogue-là? Qu'est-ce qu'il apporte finalement? Et en quoi c'est assez novateur pour un ouvrage sur le sujet?
Ouais. Alors, il nous a paru que la résistance, l'opposition en RDA était un sujet totalement méconnu en France. Ceci dit, la résistance au nazisme aussi, hein, en général. Mais disons qu'en RDA, on a vu 2-3 films, on voit la Stasi, etc., etc. Mais on ne connaît absolument pas ce qui s'est passé. C'est vraiment quelque chose d'inconnu. Parce que les chercheurs français ne se sont jamais intéressés, enfin je fais un peu court, hein, mais sont très peu intéressés à tout ça. En revanche, en Allemagne, depuis un certain temps, de plus en plus de chercheurs travaillent là-dessus. Donc on a essayé, en fait, dans cet ouvrage, mais en général, ces chercheurs ne parlent pas, ils sont souvent issus de RDA, et ils ne parlent pas français. Et donc on avait un problème de communication. Donc il nous paraissait intéressant de donner la parole à des chercheurs allemands, spécialistes qui travaillent depuis des années et des années sur ce sujet, et de traduire certains de leurs travaux. Hein, on en a traduit, donc en tout, il y a 8 textes allemands traduits sur, 26, je crois. Donc on a donné la parole à des chercheurs allemands pour justement le rendre accessible au public français, aux chercheurs français, etc. Et inversement, on a voulu aussi donner la parole à différents courants en France, puisque la recherche sur la RDA est un terrain compliqué en France, pour faire simple. Et donc, on a donné la parole à des germanistes, donc toutes les deux, nous sommes germanistes, mais aussi à des historiens et à au moins un chercheur en politologie. Et donc, pour multiplier les approches. Donc en histoire notamment, jusqu'à maintenant, c'est les tenants de l'histoire sociale qui se sont intéressés à ce sujet. Donc on a essayé de donner la parole à tout le champ. Donc parfois ce sont des voix non convergentes, mais justement c'est intéressant de voir là où les chercheurs ne sont pas d'accord, voir les points d'achoppement.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas peur avec Sibyl Gueupert, donc l'autre auteur de l'ouvrage, d'aller chercher ces moments où précisément les notions ne sont pas compatibles. Et c'est là que finalement la traduction est au cœur de cet ouvrage. Et on le voit à la fin, puisque à l'issue des 7 chapitres, on en a parlé brièvement à l'entrée, vous proposez un glossaire comme si il n'était pas possible d'aborder le sujet en passant par la traduction, ou comment tu peux préciser ce qui se passe avec ces notions-là et leur traduction ?
Alors, c'est à la fois une réflexion et à la fois une conclusion pragmatique. C'est que justement, on avait ces textes allemands, et la RDA, comme tout système politique fermée, finalement, a inventé des institutions qui n'existent pas ailleurs et donc les a nommées à sa façon. Et donc, pour beaucoup de mots, il n'y a pas d'équivalent français. Soit vous traduisez littéralement et ça n'a pas de sens, soit vous décrivez longuement quelque chose, mais souvent en plus la RDA, on le voit dans le nom même, RDA c'est République démocratique allemande, donc elle a mis le mot démocratie dans son nom. Alors que, évidemment, ce n'était pas une démocratie. Donc en fait, le langage est porteur de sens ou est porteur d'image, de représentation, mais il n'est pas anodin. Donc c'était assez difficile de faire un choix, et puis on voulait que ce soit quand même assez harmonisé dans l'ouvrage, hein, que quelqu'un puisse prendre à n'importe quelle page et puis trouve une cohérence. Donc on est arrivé à la conclusion qu'il serait intéressant de faire un glossaire, hein, qui réunit des notions, soit des notions qui ne peuvent pas être comprises par un public français non spécialiste de la période, parce que ce sont des institutions particulières. Par exemple, le système électoral, il faut l'expliquer parce qu'il est complètement fou. Il fait semblant d'être démocratique, mais il l'est pas. Ou des choses aussi, par exemple, je prends l'exemple Eingaben, qui se traduit par le mot requête, une requête. Donc si je vous dis « j'ai adressé une requête », bon, vous comprenez quelque chose, vous, français. Mais en Allemagne de l'Est, la requête, c'était quelque chose de très particulier. C'est dans la stratégie de l'État qui donne des marges de manœuvre à sa population, à partir de 1975, donc juste avant Birman, l'État dit « Bon, notre population n'est pas satisfaite. Alors, à partir de maintenant, vous avez le droit de nous adresser des requêtes, Eingaben. » Et c'était des lettres de quasi-protestation que n'importe quel citoyen pouvait adresser à l'État ou au maire ou à son représentant, etc. Et donc c'était une sorte de soupape, hein, pour la protestation. C'est-à-dire on donnait aux gens la possibilité légalement de protester. Et c'était tout à fait pour maintenir la cocotte minute en place, quoi. Donc si on traduit par requête, bon. Voilà, vous pouvez, mais vous comprendrez pas ça. Alors que de temps en temps, quand on garde le terme allemand, on désigne une notion qui n'a qu'un sens dans un contexte précis, et en l'occurrence qui n'a un seul sens dans ce contexte de RDA. Donc en fait, dans le glossaire, on voulait à la fois. Alors, on a aussi rencontré le cas, donc jusqu'à maintenant, sur la RDA, beaucoup d'historiens avaient travaillé, mais qui ne sont pas linguistes, et c'est normal, on ne peut pas tout. Voilà. Et donc certains historiens écrivaient des articles en utilisant des traductions littérales qui étaient incompréhensibles. Et donc on a voulu aussi, dans cet ouvrage, proposer des traductions qui nous paraissaient plus intéressantes ou plus sensées. Et donc on a, dans le glossaire, donc, relevé un certain nombre de mots. Quand on a pensé que ça pouvait être traduit, on a proposé une traduction ou plusieurs traductions en espérant que les générations suivantes de chercheurs les utiliseront ou les contesteront pour en trouver des meilleures encore. Et ou bien on a de temps en temps donné le mot allemand en disant voilà, ça c'est un terme qu'on nous on estime non traduisible et qu'il faut revendiquer comme étant non traduisible. Donc c'était un vrai travail sur la langue, et c'est là justement où notre identité, je crois, de germaniste, de linguiste est intéressante, c'est que n'importe quel fait historique ne peut pas être détaché de son contexte culturel et de son contexte linguistique. Et dans des dictatures telles que l'Allemagne a connu au XXe siècle, le langage est un outil du pouvoir et aussi un outil du contre-pouvoir. Donc c'est passionnant de travailler sur le langage parce que le le pouvoir s'est construit là-dessus, s'appuie là-dessus, manipule les consciences par le langage, et ceux qui prennent conscience de cette manipulation, eh bien, vont à leur tour utiliser le langage comme une arme contre l'État ou contre la dictature. Donc c'est d'où l'intérêt de faire des langues pour comprendre les faits sociaux, historiques, culturels.
Merci beaucoup, Hélène Camarane, pour la présentation de ton ouvrage.
Merci au public.